Le livre de Daniel, numéro 14. Daniel chapitre 2, résumé et conclusion. Première partie.
Dans l'Apocalypse, tous les livres de la Bible se rencontrent et s'achèvent. Voici le complément du livre de Daniel. Les Actes des Apôtres, 585.
La vérité que Jean désigne comme l'Apocalypse de Jésus-Christ, que le lion de la tribu de Juda dévoile à son peuple, depuis juillet 2023, est portée à sa perfection lorsque le livre de Daniel est mis en relation avec le livre de l'Apocalypse. Le chapitre 2 de Daniel représente le message du deuxième ange dans le contexte de l'épreuve de l'image de la bête des derniers jours. Il identifie un processus de mise à l'épreuve et une période d'épreuve précise. La période et le processus du chapitre 2 de Daniel, représentés par les 70 ans de captivité de Daniel, préfiguraient la période d'épreuve des protestants dans l'histoire millérite. Les protestants ont échoué à cette mise à l'épreuve et sont devenus les filles de Rome. Prophétiquement, une fille représente sa mère. Et Rome est une bête prophétique. Leur échec et leur transition ultérieure en fille de Rome préfigurent l'épreuve de l'image de la bête dans notre histoire actuelle, car ils se sont transformés en une image de la bête. Notre processus d'épreuve actuel est donc représenté par les 70 ans de captivité de Daniel, ainsi que par l'histoire du message du second ange pendant le mouvement millérite. Dans l'histoire du message du second ange qui a commencé le 11 septembre 2001, il existe une période précise et un processus d'épreuve qui sont représentés symboliquement par le rêve de Nebuchadnezzar d'une image de bête, car un royaume, dans la prophétie biblique, est aussi une bête. Nebuchadnezzar et l'élite religieuse chaldéenne représentent ceux qui échouent à l'épreuve, et Daniel et les trois vaillants représentent ceux qui réussissent l'épreuve. Cela peut paraître autrement, mais l'échec de Nebuchadnezzar est confirmé au chapitre 3 de Daniel. Dans le processus d'épreuve, qui est représenté dans Daniel, chapitres 1 et 2, il y a des jalons prophétiques spécifiques qui s'accordent avec les vérités qui ont été récemment exposées dans le livre de l'Apocalypse. Au chapitre 1, les 10 jours représentaient la période d'épreuve qui amena Daniel à présenter une apparence plus belle et plus replète du fait qu'il se nourrissait des mets célestes, tandis que l'autre classe d'eunuques manifestait l'image de ceux qui mangeaient la nourriture du roi. Prophétiquement, un roi est un royaume. Et prophétiquement, un roi ou un royaume est aussi une bête. Ceux dont la physionomie manifestait les effets de l'alimentation du roi manifestaient l'image de la bête. Dans le chapitre 2 du livre de Daniel, Daniel priait pour comprendre le secret caché du rêve de l'image de Nebuchadnezzar. Il devait savoir quel était le rêve et aussi ce qu'il signifiait. Il représente ceux des derniers jours qui cherchent à comprendre les secrets associés au dévoilement de l'Apocalypse de Jésus-Christ, car le dévoilement de l'Apocalypse de Jésus-Christ est le dernier secret prophétique à être dévoilé avant la fermeture de la probation. Tous les prophètes, y compris Daniel, annoncent les derniers jours. L'effort de Daniel pour comprendre le secret était une question de vie ou de mort, tout comme l'épreuve de l'image de la bête pour le peuple de Dieu dans les derniers jours.
Le Seigneur m'a montré clairement que l'image de la bête sera formée avant que le temps de probation ne soit clos, car ce doit être la grande épreuve pour le peuple de Dieu, par laquelle leur destinée éternelle sera déterminée. Manuscript Releases, volume 15, 15.
La prière de Daniel, alors qu'il cherchait à comprendre le secret, représente un jalon spécifique dans l'histoire du peuple de Dieu des derniers jours. Le livre de Daniel fournit 2 témoins qui établissent le jalon de la prière dans les derniers jours. Ce jalon se situe dans la période représentée par le 2e message de chaque ligne de réforme. Le contexte prophétique des 2 prières est celui des 70 ans de captivité, qui, en tant que symbole, représente les 7 temps du Lévitique 26. Dans Daniel 2, au 1er verset, le nom Nebuchadnezzar est doublé. Ce redoublement d'un mot dans l'Écriture est un symbole du message du 2e ange. Il y a plusieurs références dans les écrits de Sir White qui identifient le chapitre 3 de Daniel comme un symbole de la loi du dimanche. Le chapitre 1 de Daniel possède toutes les caractéristiques du message du 1er ange, et il nous est dit que l'on ne peut pas avoir un 3e message, le chapitre 3 de Daniel, sans un 1er et un 2e message. L'épreuve de l'image de la bête a été définie par Ellen White comme l'épreuve que nous devons réussir avant que le temps de grâce se ferme et avant que nous soyons scellés. Lorsque la musique a retenti au chapitre 3 de Daniel, le temps de grâce s'est symboliquement fermé, car le chapitre 3 représente la loi du dimanche. La musique de Nabuchodonosor représente la mélodie que la prostituée de Tyr commence alors à chanter au roi de la terre à la fin des 70 ans symboliques, pendant lesquels elle avait été oubliée.
Et il arrivera en ce jour-là que Tyr sera oublié pendant 70 ans, selon les jours d'un roi. Au terme de 70 ans, Tyr chantera comme une prostituée. Prends une harpe, parcours la ville, toi, prostituée qui a été oubliée. Fais résonner une douce mélodie, chante beaucoup de chansons, afin que l'on se souvienne de toi. Et il arrivera qu'après la fin des 70 ans, l'Éternel visitera Tyr. Elle retournera à son gain et se prostituera avec tous les royaumes du monde sur la face de la terre. Ésaïe 23, 15, 17.
Sir White identifie les messages des trois anges comme trois épreuves.
Beaucoup de ceux qui allèrent à la rencontre de l'épouse sous l'impulsion des messages du premier et du deuxième ange refusèrent le troisième. Le dernier message d'épreuve devant être donné au monde, et une position similaire sera adoptée lorsque le dernier appel sera lancé. Review and Herald, 31 octobre 1899.
D'après plusieurs témoins, le chapitre 2 de Daniel est le message du deuxième ange. L'histoire de la puissance conférée aux premiers anges jusqu'au jugement est l'histoire représentée par les 70 ans de la captivité de Daniel. Le cadre de la prière de Daniel au chapitre 2 se situe dans les 70 ans, qui sont un symbole des 7 temps. La prière du chapitre 9 commence par une référence directe aux 70 ans. Le cadre prophétique des deux prières est identique. Elles représentent différents aspects de la même prière, mais sont toutes deux situées dans le cadre identique des 7 temps. Et toutes deux s'alignent sur le jalon de prière qui se trouve dans l'histoire des 144 000 des derniers jours. Quand Daniel prie au chapitre 9, il se trouve dans une période de transition prophétique, du royaume de Babylone vers le royaume des Mèdes et des Perses. Ce point de transition est aussi un jalon. Et il s'aligne également avec le même point de transition dans le mouvement du troisième ange lorsque le peuple de Dieu meurt dans la rue en tant que Laodicéen et sort de la tombe comme des Philadelphiens. Le point de transition pour le mouvement du premier ange s'aligne à la fois avec le point de transition de Daniel et avec le mouvement du troisième ange, et tous trois sont directement liés aux 7 temps du Lévitique 26. La transition de Philadelphie à Laodicée dans le mouvement millérite a eu lieu avec l'arrivée d'une nouvelle lumière sur les 7 temps en 1856, puis le rejet complet des 7 temps en 1863. Daniel au chapitre 9, le mouvement du premier ange à l'époque millérite et le mouvement du troisième ange à notre époque ont tous des points de transition qui s'alignent les uns avec les autres. Et ces trois points de transition s'inscrivent tous dans le contexte des 7 temps. Dans l'histoire du processus de mise à l'épreuve, Daniel représente le messager à qui la lumière est donnée, qu'il commence par partager avec ses trois compagnons, typifiant ainsi le rôle prophétique d'Élie, qui est la voix qui crie dans le désert. Le secret du chapitre 2 de Daniel révèle que le huitième royaume de la prophétie biblique est des sept. En tant que première représentation des royaumes de la prophétie biblique, elle se rattache donc à la dernière représentation des royaumes de la prophétie biblique qui se trouve dans l'Apocalypse, chapitre 17. Le huitième royaume étant des sept royaumes précédents, aborde le point de transition qui établit Babylone moderne comme l'union tripartite du dragon, de la bête et du faux prophète. Le rêve de Nabucodonosor au sujet de l'image identifie en fin de compte le huitième royaume terrestre de l'histoire prophétique. Dans la prophétie biblique, un royaume est une bête, donc la vérité représentée par le rêve de l'image de Nabuchodonosor est la première référence à la bête finale, comme elle est également identifiée dans l'Apocalypse chapitre 17. Par conséquent, le rêve de Nabuchodonosor est en fin de compte le rêve de l'image de la huitième et dernière bête. C'est le rêve de l'image de la bête. Cela constitue en soi la confirmation de l'importance de reconnaître le point de transition qui intervient dans le mouvement du troisième ange. Mais le secret est aussi la clé qui rassemble et établit une grande partie de ce que les articles précédents ont mis en évidence au sujet de l'histoire qui a suivi le 18 juillet 2020. Dans ces articles, il a été exposé que les quatre jalons de chacun des mouvements sacrés de réforme, lesquels sont représentés par les 70 ans de captivité de Daniel, possèdent toujours le même thème. Ces quatre jalons au temps du Christ s'inscrivaient dans le contexte de mort et résurrection. Le premier jalon, qui représentait la puissance conférée au premier message, fut le baptême du Christ, symbole de la mort et de la résurrection. Le deuxième jalon, qui représente la première déception dans cette histoire, fut la mort et la résurrection de Lazare. Le troisième jalon fut l'entrée triomphale à Jérusalem, qui représentait le cri de minuit. Le Christ se dirigeait vers sa mort et sa résurrection, et Lazare, le représentant vivant de la mort et de la résurrection, menait la procession. Lazare établit aussi que, lors de la proclamation du cri de minuit, le peuple de Dieu est scellé.
Ce miracle suprême, la résurrection de Lazare, devait apposer le sceau de Dieu sur son œuvre et sur l'affirmation de sa divinité. Le désir des âges, 529.
Le quatrième jalon du jugement était la croix, qui était aussi une mort et une résurrection. La période de ces quatre jalons est représentée par les 70 mélassons de captivité de Daniel. Dans l'histoire millérite, le thème était le principe du jour pour une année, et le 11 août 1840 en fut la confirmation. La première déception fut le résultat d'une application incorrecte du principe du jour pour une année. Le cri de minuit fut la perfection du principe du jour pour une année en lien avec la prophétie des 2300 ans et la prophétie des 2500 d'un temps, puis le jugement investigatif commença lorsque ces prophéties fondées sur le principe du jour pour une année s'accomplirent le 22 octobre 1844. Le thème des quatre jalons de l'histoire millérite était le principe du jour pour une année. La période de ces quatre jalons est représentée par les 70 ans de captivité de Daniel. Au temps du roi David, le thème était l'arche de Dieu. Quand David fut investi de pouvoir, il résolut alors d'amener l'arche à la cité de David.
Et David devenait de plus en plus grand, et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. 2 Samuel 5:10.
La première déception survint lorsque Uzza pécha en touchant l'arche. Le troisième jalon fut le moment où David comprit que le Seigneur avait béni la maison d'Obed-Edom, le Gittite, où l'arche avait été gardée depuis la rébellion d'Uzza. David alla alors récupérer l'arche pour son entrée triomphale à Jérusalem. Et sa femme ne manifesta qu'une colère indue et une déception face à l'entrée de David. Chacun de ces quatre jalons est représenté par l'arche. La période de ces quatre jalons est représentée par les 70 ans de captivité de Daniel. Le 11 septembre 2001, l'islam du troisième malheur a été relâché, puis retenu. Le 18 juillet 2020 a été une prédiction ratée concernant le rôle de l'islam. Le message qui redonne la vie aux saumons morts et desséchés vient des quatre vents, qui sont celles symboles de l'islam, et représentent le message du cri de minuit. La ruine nationale qui suit l'apostasie nationale de la loi du dimanche aux États-Unis est provoquée par l'islam du troisième malheur. La période de ces quatre jalons est représentée par les 70 ans de captivité de Daniel. Le mouvement du premier ange représente le mouvement du troisième ange. Et le message du cri de minuit dans l'histoire millérite était une correction de la prédiction erronée qui a entraîné la première déception.
Ceux qui avaient été déçus virent, d'après les Écritures, qu'ils se trouvaient dans le temps d'attente et qu'ils devaient attendre patiemment l'accomplissement de la vision. Les mêmes preuves qui les avaient amenés à attendre leur Seigneur en 1843 les conduisirent à l'attendre en 1844. Premiers écrits, 247.
Les mêmes preuves d'une attaque islamique contre Nashville sont les preuves d'une attaque contre Nashville, qui aura lieu en réponse à l'imposition de l'observance du dimanche. Les écrits de l'esprit de prophétie ne faillissent jamais. La prédiction d'une attaque contre Nashville est s'exposer dans les écrits de l'esprit de prophétie. La prédiction concernant Nashville s'accomplira, mais la prédiction de l'attaque contre Nashville sera fondée sur une correction de la prédiction antérieure qui a échoué, comme ce fut le cas dans l'histoire millérite. Elle s'accomplit au quatrième jalon, qui est le jalon représentant jugement. Jésus illustre toujours la fin par le commencement. Et le premier jalon du 11 septembre 2001 fut une attaque de l'islam. Ainsi, au jugement de la loi du dimanche, il y aura une attaque islamique contre Nashville. Elle pourrait très bien inclure d'autres cibles, mais le message du cri de minuit est celui qui corrige le message qui a produit la première déception. La première déception a été causée par le péché d'appliquer l'élément temporel à la prédiction, et non par les paroles d'Ellen White. Il est important de reconnaître que les quatre jalons qui débutent avec l'accroissement de puissance du premier message, qui chez Daniel se produit au début des 70 ans symboliques, sont toujours régis par le même thème. Si vous avez accepté le 11 septembre 2001 comme un accomplissement de la prophétie, vous avez prophétiquement mangé le livre caché. Très peu de personnes ont réellement mangé cette vérité, mais il y en a eu, représentés par Daniel, qui ont résolu dans leur cœur de ne pas se souiller par le régime babylonien. Pourtant, certains professent croire que le 11 septembre 2001 a été un accomplissement de la prophétie, mais soutiennent que ce n'était pas l'islam, mais la famille Bush, ou les mondialistes, ou les jésuites, ou la CIA, ou quelques combinaisons des suspects habituels souvent invoqués par les théoriciens modernes du complot. Comme Alpha et Oméga, Jésus illustre la fin par le commencement. Ainsi, si nous nous trompons sur ce qui a été représenté prophétiquement le 11 septembre 2001, nous détruisons notre capacité à dispenser droitement la parole prophétique de vérité. Le renforcement du premier message de l'histoire millérite fut l'islam du deuxième malheur. Et ce renforcement a préfiguré le renforcement du 11 septembre 2001, qui a été provoqué par l'islam du troisième malheur. L'islam au premier jalon identifie l'islam au dernier jalon. Le dernier jalon représente le jugement, et les États-Unis sont jugés au moment de la loi du dimanche. C'est le second message d'Ézéchiel, au chapitre 37, qui fait revivre les morts Et ce message est celui du troisième jalon, qui est le cri de minuit. C'est le message de scellement, typifié par l'entrée triomphale du Christ monté sur un âne, symbole de l'islam. Le message de scellement du cri de minuit est porté par l'islam.
Dites à la fille de Sion, « Voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Matthieu 21:5.
La deuxième prophétie des chars d'Ézéchiel vient des quatre vents, qui sont aussi un symbole de l'islam. Il est absolument essentiel d'être clair au sujet de cette vérité, car le message qu'est le cri de minuit est le message qui identifie l'islam du troisième malheur comme la puissance qui amène le jugement sur les États-Unis au moment de la loi du dimanche et provoque la ruine nationale qui suit le décret. Les sept trompettes de l'Apocalypse étaient les jugements de Dieu contre l'imposition de l'observance du dimanche, tant par la Rome païenne que par la Rome papale. Les quatre premières trompettes furent lancées contre la Rome païenne après que Constantin eut imposé la première loi dominicale en l'an 321. Les cinquième et sixième trompettes, qui sont aussi le premier et le second malheur de l'islam, étaient les jugements de Dieu contre la Rome papale en raison de la loi papale sur le dimanche promulguée au Concile d'Orléans en l'an 530. La septième trompette, qui est le troisième malheur de l'islam, est le jugement qui s'abattra sur les États-Unis lorsqu'ils imposeront, dans un proche avenir, l'observance du dimanche. L'islam du troisième malheur représente le premier jalon, celui du 11 septembre 2001. La prédiction ratée d'une attaque de l'islam contre Nashville, le 18 juillet 2020, représente la première déception, le deuxième jalon. Le message des quatre vents de l'islam, tel que représenté dans la seconde prophétie d'Ézéchiel au chapitre 37, représente le cri de minuit, le troisième jalon, puis le quatrième jalon de l'accomplissement de la prédiction ratée du 18 juillet 2020 au moment de la loi du dimanche. Ce sont les quatre jalons prophétiques qui surviennent dans l'histoire prophétique des 144 000 tels que représentés par les 70 ans de captivité de Daniel. La reconnaissance du message du cri de minuit est un élément principal du secret qui a été révélé à titre typologique à Daniel lorsqu'il pria pour comprendre le songe de l'image de Nabucodonosor. Sa prière est un jalon qui se situe à la fin des 3 jours et demi de mort des deux témoins d'Apocalypse 11. La prière de Daniel, selon Lévitique 26, telle qu'elle est rapportée au chapitre 9, eut lieu la première année de Darius. Cela place ses prières à des points de transition. Le point de transition dans l'histoire millarite fut 1856, lorsque le mouvement millarite passa de Philadelphie à Laodicée, selon James et Ellen White. Cette même année, une nouvelle lumière sur les 7 temps paru dans des articles d'Hiram Edson publiés dans la Review and Herald. Mais en 1863, 7 temps plus tard, les 7 temps furent entièrement rejetés. Daniel pria la prière identifiée comme le remède à la dispersion des 7 temps au point de transition entre le premier et le deuxième royaume de la prophétie biblique. 3 et demi est un symbole des 1260 ans, qui à son tour est un symbole des 7 temps. Le 18 juillet 2020, le mouvement laodicéen de Future for America a manifesté une rébellion contre l'ordre de Dieu de ne plus jamais accrocher un message prophétique au temps. Le mouvement fut alors mis à mort et dispersé dans la rue d'Apocalypse 11, qui traverse la vallée des ossements morts et desséchés d'Ézéchiel. À la fin de ce temps de dispersion, qui est aussi le temps d'attente de la parabole des 10 vierges, ils sont maintenant appelés hors de leur tombeau par une voix qui crie depuis le désert des 3 et demi jours. De même que les Millerites ont fini par reconnaître qu'ils se trouvaient alors dans le temps d'attente de Matthieu, chapitre 25, et d'Habacuc, chapitre 2, de même les deux témoins morts doivent reconnaître où ils se trouvent lorsque la voix dans le désert crie. Ils doivent reconnaître qu'ils sont dispersés. Cette reconnaissance est un appel à la prière, mais pas simplement à la prière. C'est un appel à la prière de Daniel selon Lévitique 26. Sans cette prière spécifique, il n'y a pas de réveil. Le réveil marque le point de transition de Laodicée à Philadelphie et produit le phénomène prophétique du 8e, qui a des 7, comme le confirme l'image de Nabucodonosor dans Daniel chapitre 2. Lorsque cette prière de repentance et de confession est accomplie, la promesse est que Dieu se souviendra alors de son alliance et rassemblera son peuple dispersé. La première prophétie d'Ézéchiel réunit les ossements, puis sa prophétie des 4 vents transforma les Philadelphiens nouvellement nés en une armée puissante. Une armée puissante qui, selon l'Apocalypse, chapitre 11, devait ensuite être enlevée au ciel avec une nuée d'anges. Ils sont alors l'étendard du Seigneur. Le secret de Daniel, non, tel que le lion de la tribu de Judas le révèle, maintenant confirme le phénomène du 8e être des 7. et tous les autres éléments prophétiques de Daniel 2 s'alignent sur la séquence prophétique des deux témoins de l'Apocalypse 11. Les deux témoins du chapitre 11 de l'Apocalypse sont élevés comme un étendard à la même heure où survient la loi du dimanche, car ils sont élevés lors du grand tremblement de terre du chapitre 11 de l'Apocalypse. Le grand tremblement de terre détruit un dixième de la ville, et les États-Unis sont le principal roi des 10 rois, tout comme l'était la France lorsque le tremblement de terre de la Révolution française a balayé la France en accomplissement du chapitre 11 de l'Apocalypse. L'accomplissement parfait de ce tremblement de terre s'accomplit sur la bête de la terre, et la loi du dimanche dans le royaume de la bête de la terre produit un ébranlement. L'accomplissement parfait du tremblement de terre d'Apocalypse 11, c'est la loi du dimanche, lorsque la bête de la terre est ébranlée et que l'apostasie nationale est suivie de la ruine nationale. À cette heure-là, les deux témoins sont élevés comme un étendard nir. Ils montent au ciel dans les nuées, tout comme le Christ est monté au ciel pour la dernière fois. Ces dernières paroles aux disciples, qui typifient le peuple de Dieu des derniers jours, lequel doit aussi être élevé au ciel comme un étendard, sont consignées dans le livre des Actes.
Et il leur dit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, pendant qu'ils le regardaient, il s'éleva, et une nuée le déroba à leurs yeux. Acte 1, 7, 9.
Ceux qui veulent être l'étendard doivent se détourner de l'application des temps et saisons. S'ils veulent recevoir la puissance du Saint-Esprit pour accomplir l'œuvre de l'étendard. Le secret qui a été révélé à Daniel au chapitre 2 est le secret de l'Apocalypse de Jésus-Christ, qui est décelé juste avant la clôture de l'approbation. Ce secret comprend l'histoire cachée des 7 tonnerres. Cette histoire est structurée autour du mot hébreu qui a été créé en réunissant la première, la 13e et la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Lorsque ces lettres sont réunies, elles forment le mot hébreu « vérité ». Jésus est la vérité, et il est aussi le premier et le dernier. Ces 3 lettres représentent la structure de tout grand mouvement de réforme, car elles représentent le premier, le deuxième et le troisième ange. Elle représente le processus de purification en 3 étapes présenté par Daniel au chapitre 12, comme purifié, blanchi et éprouvé. Ce processus d'épreuve et de purification en 3 étapes a été présenté depuis plus de 2 décennies par Future for America, mais il a maintenant été identifié comme représentant une histoire cachée au sein des lignes de réforme sacrées. Cette histoire cachée est l'accomplissement parfait des 7 tonnerres qui étaient scellés jusqu'à maintenant, juste avant la clôture de l'approbation. Il est depuis longtemps entendu que les 7 tonnerres représentent une description des événements qui se sont déroulés sous les messages du premier et du deuxième ange, et qu'ils représentent également des événements futurs qui seraient révélés dans leur ordre. Il a maintenant été révélé, par la révélation de la vérité, que les 3 derniers jalons d'une ligne de réforme sont l'histoire cachée des 7 tonnerres. Ces jalons commencent par la première déception et se terminent par la dernière déception. Le jalon central est le cri de minuit. La première déception marque le début du temps d'attente, qui se termine au cri de minuit. Le message du cri de minuit se termine au jugement, où la dernière déception est à marquer. La première déception dans le chapitre 2 de Daniel fut la prise de conscience par Daniel qu'il avait été placé sous un décret de mort. Il demanda alors du temps, marquant ainsi le début du temps d'attente. Cela le conduisit à comprendre le secret qui est le message du cri de minuit, lequel fut ensuite présenté à Nabuchodonosor afin qu'il puisse juger le message de Daniel. Le jugement de Nabuchodonosor sur le rêve et l'interprétation présenté par Daniel constitue le 3e des 3 jalons qui représentent l'histoire cachée des 7 tonnerres. Ce jugement est également repris au chapitre 3 du livre de Daniel qui illustre le principe constamment employé dans les livres de Daniel et de l'Apocalypse, à savoir répéter et élargir. Nous aborderons le chapitre 3 dans le prochain article, mais il convient de signaler ici que le jugement du 3e jalon au chapitre 3 identifie la dernière déception, qui avait été préfigurée par la première déception. L'histoire cachée des 7 tonnerres identifie 3 jalons, commençant et se terminant par une déception. Dans le chapitre 2 de Daniel, la première déception est associée à un décret de mort promulgué par Nabuchodonosor, et au chapitre 3, la dernière déception est associée à un autre décret de mort promulgué par Nabuchodonosor. L'histoire cachée des 2 témoins, qui représente le mouvement Future for America, représente la déception du 18 juillet 2020. Alors commença le temps d'attente, tel que représenté par 3 jours et demi dans le chapitre 11 de l'Apocalypse. Le réveil et la résurrection de ceux qui ont été tués dans les rues par la bête qui est montée de l'abîme sont précisément décrits dans la parole prophétique de Dieu. Mais, au niveau le plus simple, lorsque les deux témoins se réveillent, ils comprennent le secret représenté dans le chapitre 2 de Daniel. Ce secret est le message du cri de minuit, qu'il proclame ensuite jusqu'au chapitre 3 de Daniel, lorsque survient l'imminente loi du dimanche et que se produit la dernière déception. La première déception a été vécue par ceux représentés par Daniel, le 18 juillet 2020. La dernière déception est vécue par le chef des 10 rois, à savoir les États-Unis, alors que l'apostasie nationale entraîne la ruine nationale provenant de l'islam. Nous terminerons le résumé et la conclusion du chapitre 2 de Daniel dans le prochain article.
Satan a réduit le monde en captivité. Il a introduit un sabbat idolâtre, lui accordant apparemment une grande importance. Il a détourné l'hommage du monde chrétien du sabbat du Seigneur au profit de ce sabbat idolâtre. Le monde se prosterne devant une tradition, un commandement d'origine humaine. Comme Nabuchodonosor dressa son image d'or sur la plaine de Dura et s'exalta ainsi, de même Satan s'exalte dans ce faux sabbat, pour lequel il a volé la livrée du ciel. Review and Herald, 8 mars 1898.